Chapitre 31. Hier soir, Owen et Diana ont passé 2 heures à s'écrire. Elle a essayé de le persuader de demander au proviseur de le réembaucher. Elle avait de bons arguments, irréfutables. Les élèves qu'il avait dénoncés quitteraient le lycée dans quelques mois, de nouveaux élèves arriveraient, qui ne seraient pas au courant de l'histoire, et il pourrait repartir de zéro. Elle lui avait aussi rappelé à quel point il aimait son travail, et que plus il restait longtemps au chômage, plus il lui serait difficile de convaincre un nouvel employeur de lui laisser sa chance. L'inquiétude de Diana lui avait fait prendre conscience qu'avant de la rencontrer, il n'avait personne dans sa vie qui lui donne des conseils, qui discute, qui se soucie de lui, qui interroge ses choix. Personne. Pas depuis la mort de sa mère. Il s'était souhaité bonne nuit à 23h. Owen aurait pu discuter avec elle pendant des heures, mais Diana devait se réveiller tôt le lendemain. Owen s'était endormi, le téléphone posé sur le torse, un sourire aux lèvres. Ce matin, il se lève et s'approche de la fenêtre de sa chambre. Les policiers sont revenus. Ils poursuivent leurs recherches dans leur jardin. Hier soir, avant de partir, ils ont installé un cordon tout autour et ont interdit tous les résidents de s'y rendre. Toute la nuit, un policier a monté la garde devant le chantier. Owen baisse les yeux vers l'endroit que la police a fouillé la veille, là où ils ont trouvé la coque de portable. Et soudain, alors qu'il contemple les brins d'herbe, il a un flash. Du mouvement. Un cri de douleur. Il secoue la tête pour chasser cette pensée et va dans la salle de bain, où il se douche et se lave les cheveux. Il se regarde dans le miroir et décide qu'il est grand temps d'intervenir. Il n'a pas le courage d'aller chez le coiffeur pour quelques petits centimètres. Alors il sort les ciseaux du tiroir, aplatit ses mèches sur son front avec les doigts, puis coupe au-dessus des sourcils. Il commence à gauche et voit la visière sombre tomber dans le lavabo, où les mèches ressemblent à de petites moustaches abandonnées. Il s'apprête à faire de même du côté droit quand il entend que l'on frappe à la porte plusieurs coups pressants. Il sursaute et la lame des ciseaux lui entaille la peau. Il essuie à la va-vite le sang qui perle sur son front. « Quoi ? » crie-t-il. « Owen, la police est là !» lui annonce Tessie. « Il faut que tu sortes !»«
Ok, 2 minutes !» souffle-t-il.
« Monsieur !» l'interpelle une voix masculine. « Ouvrez la porte, maintenant !»«
Je sors de la douche, attendez 1 minute !»«
Sortez immédiatement !»« Putain de merde !» marmonne Owen. Il se sèche rapidement et enfile son peignoir élimé. Il ouvre la porte et tombe sur Tessie, qui a un mouvement de recul en le voyant.
« Est-ce que je peux m'habiller au moins ?»
demande-t-il à l'agent en uniforme qui se tient à côté d'elle. L'agent se retourne vers une femme derrière lui. C'est l'inspectrice Curry qui acquiesce.
« Oui, mais l'agent Rodriguez va devoir vous surveiller. »«
Pardon ?»«
Je suis désolée, c'est la procédure. »«
Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est quoi ce délire ?»«
Ce délire, monsieur Pic ?» C'est que je dois vous demander de bien vouloir nous accompagner au commissariat pour répondre à des questions concernant la disparition de Saphir Maddox. Nous avons également un mandat pour fouiller votre chambre,
poursuit-elle en lui montrant une feuille qu'Owen scrute d'un air hébété.
Nous devons nous assurer que vous ne toucherez à rien. Je suis désolée.
Elle lui sourit. C'est un sourire déstabilisant. Doux d'apparence, mais froid et dur aux commissures. Il essaie de protester, mais il peine à trouver ses mots. Il sait que, quoi qu'on lui reproche, ses actes ou ses paroles risqueraient d'aggraver son cas. Alors il hoche la tête et se rend dans sa chambre, le policier sur les talons. Il parcourt la pièce des yeux tout en s'habillant. Il essaie de se souvenir de tout ce qu'elle contient. Se demande si certains objets pourraient le relier à la disparition de cette adolescente dont il n'avait jamais entendu parler il y a encore 2 jours. Cette fille qu'il a peut-être complètement imaginée.
Dépêchez-vous s'il vous plaît, monsieur Pic.
Il enfile à la hâte sa tenue de la veille. Il l'avait posée sur sa pile de linge sale. Il pensait pouvoir passer des vêtements propres aujourd'hui. Mais il n'arrive pas à réfléchir assez vite pour choisir une nouvelle toilette. Il met ses vieilles chaussures recollées et plonge la main dans ses cheveux mouillés. Il sent sous ses doigts le sang coagulé de sa coupure. Du sang frais se remet à couler. Owen s'apprête à prendre un mouchoir dans la boîte posée sur sa table de chevet, mais l'agent l'interrompt.
« S'il vous plaît, ne touchez à rien. »«
Mais je saigne. »
On pourra s'en occuper quand on sera dans la voiture. On verra ça plus tard. Allez.
Owen souffle bruyamment. Il jette un dernier coup d'œil à sa chambre, attrape sa veste suspendue à la patère et suit le policier dans le couloir.
Tessie se tient près de la porte. Elle arbore un kimono de soie par-dessus un pyjama vert. Ses cheveux sont lâchés. Elle a l'air triste et fatiguée. Quand Owen passe devant elle, elle lui saisit le coude.
« Qu'est-ce que tu as fait, Owen ? Dis-moi. »«
Mais je n'ai absolument rien fait, nom de Dieu. Tu le sais très bien. »
Tessie s'éloigne de lui.
« Tessie, putain !»
lui crie-t-il.
« Tu sais que je n'ai rien fait !»
Elle se réfugie dans sa chambre et referme la porte derrière elle. Une paume se pose sur l'épaule d'Owen.
« Monsieur Pic, il faut qu'on y aille. »
Il déloge la main d'un mouvement sec. La colère commence à prendre le pas sur l'incrédulité et l'effroi.
« J'arrive. Ok ?»
En quittant la maison, il se rend compte que les proportions de la rue ne sont pas normales. Comme si les éléments avaient été déplacés. Comme si une catastrophe était sur le point de se produire. Et soudain, il les voit. Un troupeau, une horde d'hommes et de femmes armés de caméras et de micros qui se jettent sur lui. L'agent et l'inspectrice le couvrent de leurs bras et l'entraînent à travers la foule.
« Monsieur Pic ! Monsieur Pic !»
Ils connaissent son nom. Comment connaissent-ils son nom ? Comment savaient-ils ce qui allait lui arriver ? Comment était-ce possible ? Owen lève la tête et tombe directement sur l'objectif d'un appareil photo. Il ouvre grand les yeux et est aveuglé par un flash puissant. Quelque chose le force à se baisser. Il est dans une voiture. La porte se ferme. Derrière les vitres, il voit des visages, des caméras. La voiture avance. Les gens la touchent. Ils sont si proches. Owen se demande comment leurs pieds ne sont pas écrasés par les roues. Soudain, il n'est plus dans sa rue. Il roule sur l'avenue principale. Et il n'y a plus d'appareil photo. Seulement des gens normaux qui vaquent à leurs occupations. Owen s'enfonce dans la banquette. Il pousse un profond soupir.
« Qui leur a dit ?»
demande-t-il aux deux nuques assises devant lui.
« Aux journalistes ?»
s'inquiète l'inspectrice.
« Oui. Qui leur a dit que vous veniez me chercher ?»«
Je ne sais pas, mais ils savent que nous avons effectué des fouilles autour de chez vous. Les voisins parlent. Je suis désolée que les choses se soient passées de cette façon.
Mais ça va être dans tous les journaux. Les gens vont penser que je l'ai fait. »
Que vous avez fait quoi ? Il regarde dans le rétroviseur. Elle le fixe à nouveau avec ce sourire glaçant.
Je ne sais pas ce pourquoi vous m'arrêtez.
Vous n'êtes pas en état d'arrestation, monsieur Pic. Pas encore.
Alors qu'est-ce que je fiche ici ?
Demande-t-il en observant par la vitre une jeune femme qui promène des chiens, essayait de faire monter un imposant limier dans une camionnette. Il se regarde dans le rétroviseur. Ses cheveux ont commencé à sécher. Ils sont plus courts d'un côté que de l'autre et sont tout ébouriffés au sommet de son crâne. Le sang sur son front a coagulé et forme une traînée jusque dans son sourcil. Il a une mine épouvantable, tout simplement. Et la presse de tout le pays l'a pris en photo avec cette tête-là, alors qu'on le conduisait dans une voiture de police pour l'interroger sur la disparition d'une adolescente. Il n'aime même pas les adolescentes, et il n'est pas en état d'arrestation. Il a oublié son téléphone à la maison. Et si Diana lui a écrit ? Et si elle s'imagine qu'il l'ignore ? Une pensée encore plus affreuse l'assaille. Et si sa photo figure dans les journaux demain ? Avec ses cheveux en pétard, son front en sang, ses vêtements de la veille, le portrait parfait d'un horrible pervers, avec le titre « Le tueur de Saphir ». Owen se met à grogner.
« Vous allez bien, monsieur Pic ?»«
Non, » s'emporte-t-il.
« Putain, bien sûr que non !» Je vais être dans tous les journaux, alors que je ne suis même pas arrêtée. C'est légal, ça ?
Oui, j'en ai bien peur, monsieur Pic. C'est fâcheux.
Tout le monde va voir ma tête, et quand vous me libérerez, personne ne voudra entendre que je ne suis pas coupable. Ils se souviendront seulement de ça. Je ne retrouverai jamais de boulot, je...
Il imagine Diana, ouvrant l'édition du soir de l'Evening Standard dans le métro.
Mon Dieu.
Monsieur Pic, prenons les problèmes les uns après les autres. Si tout va bien, dans une ou deux heures, vous pourrez rentrer chez vous. Nous en informerons la presse. Ils ne publieront rien si cela n'a pas d'intérêt pour eux. Il ne faut pas se projeter pour le moment, conclut-elle avec ce même sourire dénué de chaleur. Owen se rassied, croise les bras et se balance doucement d'avant en arrière. Le monde est une camisole qui enserre ses os et l'oppresse, expulsant tout l'air de ses poumons. Il regarde les passants, des gens normaux occupés à des activités ordinaires. Faire les courses, aller au travail. Cette quotidienneté lui paraît soudain comme un concept tout à fait étranger. Quelque chose qu'il a du mal à se représenter.
J'ai besoin d'un avocat ?
C'est à vous de voir.
Vous en avez un ?
L'ami de Tessie, Barry, est avocat. Mais ce n'est pas le sien.
Non.
On peut en appeler un pour vous si vous voulez.
Non,
répond-il. Ça va aller.
Voyons d'abord comment les choses se passent, d'accord ?
Owen hoche la tête. Puis, comme si une maison tombant du ciel était sur le point de l'écraser, son ombre s'élargissant de plus en plus vite, il se souvient. Le flacon fourré à la hâte dans son tiroir à caleçon après le rendez-vous avec Brynn. Il avait l'intention de s'en débarrasser dans une poubelle de la rue la prochaine fois qu'il mettrait le nez dehors. Et puis ça lui était complètement sorti d'esprit. La drogue du violeur. La peur lui retourne le ventre. Sa tête tourne. Son cœur s'arrête, puis bat à tout rompre, à le rendre malade.
« Mon Dieu !»
murmure-t-il.
« Tout va bien ?»
demande l'inspectrice en le regardant dans le rétroviseur.
« Je crois que je vais... »
Il s'interrompt pour plaquer sa paume sur sa bouche. Il va vomir. L'inspectrice ordonne à l'agent de s'arrêter. La voiture se gare devant un parterre. Owen se penche et vomit. Fort. Douloureusement. Il a la chair de poule et un marteau lui pilonne le crâne. Il halète et recommence. L'inspectrice se poste devant lui, un mouchoir à la main. Il lève les yeux vers elle. Owen ne sait pas s'il lit sur son visage de la pitié ou du dégoût. Il attrape le mouchoir et s'essuie les lèvres.
« Ça va mieux ?»
Il acquiesce. « On peut repartir ?» Il réitère le mouvement. Elle sourit et attend qu'il rentre ses jambes dans la voiture, puis ferme la portière et s'installe sur le siège passager.
« Vous avez mangé quelque chose qui ne passe pas ?»
s'enquiert-elle un moment plus tard, en lui jetant un regard dans le rétroviseur. Il hoche la tête, le poing fermé contre sa bouche.
« Probablement. »
Elle sourit. Elle ne le croit pas.